Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h22 et sous la fausse tour du faux aéroport de Notre-Dame-des-Landes, eh bien nous sommes entourés d'un certain nombre de protagonistes qui vivent aujourd'hui sur cette ZAN. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie qui est botaniste. Vous nous expliquerez, Jean-Marie, quels sont les différents animaux qu'on trouve ici. Sarah, vous êtes paysanne, vous habitez la ZAD et vous élevez des moutons. Dominique Fresneau, vous êtes co-président de l'association citoyenne intercommunale des populations concernée par le projet d'aéroport. Et puis on est dans une bibliothèque, c'est votre bibliothèque, c'est vous qui la tenez, Victor. Qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce que vous y faites ici?
Alors on est une dizaine de personnes à s'occuper de cette bibliothèque qui est en bord de route à la Rolandière sur la ZAD. C'est une bibliothèque qu'on a ouverte en 2016, à l'automne, à un moment où les menaces d'expulsion étaient énormes, où Manuel Valls, chaque semaine à l'Assemblée nationale, promettait qu'il allait nous expulser incessamment sous peu. Et nous, un peu par pied de nez, on a dit, ben voilà, sur la ZAD, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas que de l'agriculture, il y a aussi des choses culturelles. On va mettre des milliers d'ouvrages qui seront consultables plusieurs fois par semaine. Et ces milliers d'ouvrages, on a demandé aux gens du mouvement de nous les amener. Et donc les gens ne sont pas amené un livre dont ils voulaient se débarrasser, mais ils ont amené le meilleur, le livre qui leur tenait le plus à cœur, et ils l'ont posé ici, dans cet écrin là, dans la bibliothèque du Talus. Et donc aujourd'hui, tout un chacun, les gens des bourgs alentours, des comités de soutien, etc., peuvent venir consulter ces ouvrages gratuitement, sans qu'on lui demande son identité. Et chose exceptionnelle, les livres sont empruntés et ils reviennent. Alors ça, c'est un peu le côté, disons, activité quotidienne de la bibliothèque du Talus. Mais il y a aussi un peu un truc plus événementiel, si on veut. On fait des rencontres, énormément de rencontres, une cinquantaine par an, avec des auteurs, des éditeurs.
Bah oui, le prix Goncourt, apparemment.
Eh bien, on a Éric Vuillard qui vient le 1er février, donc présenter son dernier livre, L'Ordre du Jour. Mais on a ici, par exemple, Jean-Bernard Pouy, qui va venir présenter un livre qu'il vient de faire sur la ZAD. Alors, bon, Pouy, c'est évidemment des polars, il y en a pas mal dans cette bibliothèque. On dit souvent comme ça en blaguant que c'est les seuls policiers qui rentrent sur la ZAD. Mais bon, voilà.
C'est un lieu en tout cas très sympathique. Il fait bon puisque maintenant le poil fonctionne. Alors, parmi les critiques, Dominique Fresneau, qui sont adressées à la ZAD, on dit qu'il y a eu un vote. Moi, si je dis que ce fut un référendum, vous dites que ce fut une...
consultation.
Ah ben voilà, on a un numéro bien rodé. Ah. Alors, pourquoi pour vous, ce vote qui était censé être favorable à l'aéroport, il n'est pas valide? Expliquez-nous en quoi vous remettez en cause sa légitimité.
D'abord, pour ça, il faut informer tout le public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander aux citoyens de faire un choix si on ne lui donne pas tous les éléments du choix. Ici, à Notre-Dame-des-Landes, de toute façon, qu'est-ce qu'on avait comme choix? C'est faire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou ne pas le faire. Et si on avait donné le choix aux citoyens entre faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et refaire celui de Nantes-Atlantique ou l'améliorer, eh bien, bien sûr que le choix aurait été différent. Et puis, ce choix, il a été fait et ce texte a été décidé par... Jean-Marc Ayrault à l'époque, ou par les décideurs locaux. En plus, on a consulté une partie de la population, puisqu'on a on a consulté uniquement les gens de Loire-Atlantique. Et puis, vous savez, quand on analyse un peu plus finement les chiffres, on se rend compte que finalement, Nantes, ils n'en veulent pas tant que ça, de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ici, les populations sont complètement opposées. Et puis, autour, à Bouguenay, par exemple, eh bien l'aéroport, c'est leur culture, parce que ils en vivent.
Et puis, il y a toutes sortes de sondages qui disent que les zadistes doivent être mis, alors on ne sait pas, supplice du pal. Enfin, il y a différentes issues et différents chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi, Victor?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a les chiffres comme ça qui flottent dans les médias, qui ont fait dire à peu près ce qu'on veut, qui sont très fluctuants d'ailleurs, selon le temps. Et puis, il y a la réalité sur le terrain. Nous, on constate qu'à chaque fois qu'on appelle à une mobilisation, on a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui arrivent ici pour protéger cette zone, dans des conditions parfois très difficiles. Et je pense qu'il va y avoir un test très important, ça va être la mobilisation du 10 février, où on va appeler à nouveau toutes les personnes qui soutiennent la ZAD et qui voudront fêter soit la victoire contre le projet d'aéroport, soit se mobiliser à nouveau pour défendre cette zone, à venir converger ici à Notre-Dame-des-Landes. Donc ce sera le 10 février.
Sarah, vous avez décidé de vous installer ici, vous élevez des moutons. Pourquoi avez-vous décidé donc d'avoir aujourd'hui cette villa? Qu'est-ce qui vous a incité à venir sur cette zone?
Eh ben, avant, j'étais dans le Trièves, au sud de Grenoble, en fait. Et c'est un territoire hyper attractif, dans des montagnes qui est absolument magnifique. Et où, en plus, il y a une certaine densité des alternatives agricoles, etc. Mais clairement, ce que j'ai trouvé ici, c'est complètement hors norme et c'est assez incomparable avec ce que je peux connaître.
Pourquoi ?
Bah, c'est d'une densité tout autre, en fait. Faut comprendre qu'ici, on est quand même 90 lieux de vie. C'est 1650 hectares de terres agricoles avec des possibilités en termes d'activité hors normes, enfin, loin de tous les cadres classiques. En fait, on peut tout inventer. Et puis, c'est d'une densité humaine aussi qu'on retrouve pas ailleurs, en fait. On a énormément d'entraide entre une diversité de gens qui arrivent de tout un tas de milieux. Il y a tout un ensemble de paysans, de copains qui sont hyper investis, qui sont là pour accompagner les installations, etc. quoi.
Vous vivez concrètement de quoi ?
Eh ben concrètement, on vit beaucoup d'entraide en fait. Ce qu'on invente ici, c'est un mode de vie où finalement l'argent prend beaucoup moins de place, quoi.
C'est-à-dire beaucoup de troc et moins d'argent ?
Bah beaucoup de troc et puis beaucoup d'autonomie en fait, on construit notre autonomie ensemble quoi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on invente réellement ce qu'est une agriculture paysanne, on réinvente ce qu'est une agriculture paysanne ici, c'est-à-dire que nos activités vivrières elles prennent une place qui est au moins aussi importante que des activités de rente, etc. Et c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on peut voir dans l'agriculture alternative qui est promue par les collectivités territoriales quoi. Ici nous on prend vraiment du temps pour construire notre autonomie et en fait ça nous émancipe en grande partie de l'argent quoi.
Et c'est effectivement un discours que l'on retrouve, on peut l'entendre par exemple chez l'une des habitantes, Juliette, qui explique comment elle voit l'avenir.
Ici, pour la conserverie, aujourd'hui, comment on voit l'avenir ? On voit l'avenir on va monter un hangar, on vient de faire la base, on monte le hangar, on va faire un labo de transfo, mais on n'est pas dans le système capitaliste traditionnel dans lequel on aimerait nous y voir, et on est plus dans le troc, dans l'échange de savoir, et pas forcément dans la marchandisation, et du coup, c'est pour ça qu'aussi on aimerait continuer ces activités.
Juliette, interrogée par Véronique Rebérod, Victor, vous pensez qu'ici, vous pouvez, avec vos petits bras musclés, en finir avec le capitalisme ? Est-ce que c'est ça ce que vous souhaitez faire ou bien juste vivre comme vous le souhaitez sur ce territoire ?
Je crois surtout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose d'éminemment peu convaincant dans comment la société actuelle fonctionne, que ce soit en termes de crise écologique, de crise économique, de misère, de migrants qui meurent tous les jours dans la mer de Méditerranée. Je pense qu'avoir 1650 hectares où des gens essayent de vivre un peu différemment de ce système-là, ce n'est pas exagéré. Et bien évidemment, quand on nous donnera ces 1650 hectares, nous en prendrons beaucoup plus.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le modèle qui se développe
c'est
ici...
Là aussi, c'est une déclaration.
Non, ça veut dire que le modèle qui se développe ici a vocation à faire des émules ailleurs. C'est déjà le cas dans différents endroits. Il y a des gens qui se battent contre un transformateur à Saint-Victor-et-Melvieu en Aveyron. Il y a des gens qui se battent contre la poubelle nucléaire à Bure. Partout où des gens se battent contre ces grands projets inutiles, ils construisent aussi des mondes plus justes, des mondes plus beaux et qui donnent envie de se lever chaque matin, qui donnent de l'espoir à tout le monde.
Mais imaginez par exemple qu'il n'y ait pas d'aéroport. Est-ce que vous, Victor, vous restez là ?
Ah, bien sûr.
Oui. D'accord, donc c'est votre lieu de vie, vous avez décidé de vous installer ici.
Oui, oui bien sûr.
Véronique Rebérod ?
Et vous régularisez votre situation, comme vous le proposent les médiateurs dans leur rapport, par exemple, pourront rester ceux qui régulariseront leur situation ?
Alors, pour le moment, on ne nous a rien proposé de très clair. Je veux dire, pour le moment, on est encore sur des déclarations qui disent qu'on va être expulsé demain. Donc, il va falloir qu'il y ait un processus avec le gouvernement qui... abandonne l'aéroport, fasse tomber la dupe, renonce à expulser.
Déclaration d'utilité publique qui tombe bientôt, là, dans un mois, oui.
On l'espère. Et à partir de ce moment-là, on commencera à discuter. Et ça sera un processus collectif, fait en assemblée, avec tout le mouvement, etc., etc.
Mais pour l'instant, vous n'avez vu personne, si j'ose dire ?
Pour le moment, les négociations ne sont pas engagées.
Pas de négociations. On écoute une autre habitante de la ZAD, Camille, évidemment.
Je pense qu'on a des choses à inventer, certes, et je pense qu'on a déjà inventé des choses et on a déjà prouvé qu'on est capable ici de créer des formes d'organisation qui sont pas gérées par des institutions et pour autant qui sont pas le chaos, comme on tendrait à bien vouloir nous faire croire souvent que s'il n'y a pas d'État, c'est la loi du plus fort, c'est la jungle, et ici on a montré que c'est pas le cas. Que c'est pas pour autant qu'on a réglé tous les problèmes, ça serait complètement utopiste, mais il y a des tensions, il y a des conflits. Mais au moins, les conflits peuvent avoir lieu, on discute, il y a des assemblées, il y a plein de plans d'organisation différents. Et donc, on a montré qu'on est capable de s'organiser sans qu'il y ait aucune ingérence d'une institution quelconque et que ça se passe quand même plutôt bien. Et voire même, s'il y a autant de gens qui viennent nous voir et si même vous venez nous voir et si Il y a autant de regards qui sont tournés vers ce qui se passe ici. C'est, je pense, assez révélateur de ce que beaucoup de gens attendent dans la société actuellement.
Ça n'aura pas de chaos ici ?
Je dirais plutôt qu'on est une marmite en ébullition, mais pas un lieu de chaos, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'organes de régulation. Par exemple, lorsque quelqu'un ne se comporte pas bien, vous réunissez, vous pouvez au besoin décider de l'exclure. C'est comme ça que ça se passe ?
Eh ben, on a l'habitude de discuter beaucoup ici, en fait. On a l'habitude de se réunir, de gérer les conflits et de les appréhender en amont. On a, je pense, tout un modèle qui se réinvente, en fait, sur comment on régule les comportements.
Qu'est-ce que vous décidez collectivement, par exemple ? Donnez-nous.
Eh ben, par exemple, on est assez attaché à avoir des comportements qui soient pas sexistes sur zone et on fait attention, au comportement à la fois.
Pourtant, on m'a dit qu'au début, c'était pas facile pour les filles ici. Vous le confirmez ?
Eh ben, je crois que c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, voyez-vous.
Pas plus simple non plus.
Et si, en réalité, je pense que c'est plus simple quand même. Moi, je vois vraiment la différence, en fait, parce que ailleurs, et d'ailleurs, je l'ai beaucoup vécu avant d'être ici. Enfin, être traité de féministe radicale dès qu'on refuse, en fait. Des comportements sexistes en tout genre, hyper classiques, qui sont compris dans les normes, c'est hyper rapide. Ici, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre et de pouvoir dire, en fait, là, mec, tu me fais chier. Et les gars, en général, ils restent pas longtemps sur des comportements de ce type-là parce qu'ils savent que derrière, il y a une riposte féministe qui peut arriver, quoi.
Victor, sur la manière dont finalement le reste de la France vous voit, il y a eu toute une série de reportages, des reportages qui montrent des gens, des installations à la Mad Max. Comment vous réagissez par rapport à cette représentation-là de la ZAD ?
Tout le monde sait très bien désormais, vu le nombre de reportages qu'il y a eu dans les différents médias, que c'est beaucoup plus complexe que ça et très hétérogène. Il y a des gens qui ont des vies qu'on pourrait qualifier de relativement normales sur la ZAD, par exemple.
Il y a des bébés ZAD.
Il y a des bébés, il y a deux jumeaux qui viennent de naître il y a quelques semaines.
Ils s'appellent Camille et Camille.
Mais il y a des gens qui partent au travail. Par exemple, quand je suis venu ici pour cette émission, une de mes cohabitantes partait au travail à Nantes. Il y a des gens qui sont agriculteurs.
Cohabitantes, pourquoi ?
Parce qu'on est une dizaine à partager un lieu de vie, à s'entraider sur ce lieu de vie et à aimer vivre ensemble.
Voilà. Et ça se passe sans tension. Est-ce que à long terme on peut envisager ça ?
Il faut, je sais pas. Moi, je suis né dans un petit village. Je sais pas si vous imaginez le nombre d'embrouilles, de conflits, etc., qui agitent un village à propos de la société de chasse, du comité des fêtes, du kin, etc., etc. Moi, je trouve que ici, ça fait 5 ans qu'on vit avec des profils qui sont absolument aux antipodes les uns des autres. Il y a des paysans qui n'ont jamais bougé d'ici. Il y a des gens qui ont traversé toute l'Europe, qui ont des styles de vie complètement différents. Et tout ça arrive pendant 5 ans, sans police, sans justice, à vivre ensemble. Moi, je pense que personne n'aurait parié là-dessus, surtout pas le gouvernement de l'époque.
Jean-Marie Dréan, si on a évoqué également Notre-Dame-des-Landes, c'est en raison donc de la faune, de la flore, de ce que l'on y voit. Vous êtes naturaliste. Expliquez-nous pourquoi cette zone recèle un certain nombre de richesses dans le domaine écologique.
Oui, donc d'abord les naturalistes, voilà, c'est les gens qui mettent le nom correct sur tous les animaux, les plantes, les rochers et compagnie. Et donc
ce qui n'est pas mon cas. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des tritons, je vous ai dit il y a des tritons, vous avez dit vous êtes parisien.
Il y a des tritons mais pas que ça, voilà.
Donc, mais pourquoi ces tritons sont-ils particulièrement rares ? Pourquoi sont-ils à protéger ?
Ah, c'est des espèces qui disparaissent partout ailleurs. Donc c'est un peu le dernier bastion. Bien sûr, il en existe des petites populations par-ci par-là. Si je prends l'exemple du lézard vivipare, on en a rencontré 3 fois en Loire-Atlantique avant que les naturalistes en lutte investissent la zone de Notre-Dame-des-Landes. Et ici, on en a trouvé partout. Parce que, par exemple, simplement pour la vie d'un lézard vivipare, il faut une prairie humide et il faut des souches ou des talus pour y passer l'hiver un peu au sec, ou en tout cas pas en apnée. Et donc, c'est pas simplement des pampas humides ou des forêts qu'il lui faut, c'est un bocage avec la prairie et le talus. Et là, on a cet exemple de bocage humide, à mailles extrêmement serrées alors que le bocage a été abattu partout autour, avec un grand nombre de mares, un grand nombre de petits bois, un grand nombre de prairies naturelles. Donc, ces éléments-là Et ces espèces-là existent ailleurs, mais à l'état très dispersé, séparé par des déserts d'agriculture intensive. Et ici, tout ça est très dense, très serré, et chaque espèce, y compris les espèces qui sont encore communes, mais sont en effectif exceptionnel. Et le tout, c'est pas dans un désert agricole, mais dans un lieu vivant où il y a des personnes qui cultivent, et une densité de population, mais en respect avec cette nature, comme ça s'est produit auparavant de tout temps, on va dire.
Alors, Véronique Robérot.
C'est vrai que cette nature, elle a été protégée, en fait, par ce projet d'aéroport qui, depuis 40 ans, a tout figé sur la zone. Elle est très difficile, elle serait très difficile, si l'aéroport devait être construit, à compenser, parce que ça oblige aujourd'hui, ces projets-là doivent être compensés d'un point de vue environnemental. Ce serait impossible ?
Oui, alors, compensation... radicalement impossible quand on a une terre pauvre, alors pauvre en nutriments donc riche en biodiversité, là c'est une chose à expliquer.
Et ben justement, comment vous expliquez ce paradoxe?
Alors là vous m'envoyez dans une longue explication, mais voilà, il y a des plantes spécialisées dans les terres pauvres, dans une terre riche elles sont concurrencées par des plantes banales vu que toutes les terres ont été enrichies partout. Et en tout cas, quand une terre est amendée d'une certaine façon, elle est amendée pour toujours, quoi. On va pas retrouver une terre de lande pauvre avec les espèces correspondantes avant les 500 prochaines années. Donc, on n'a pas un endroit qui est devenu une campagne super écologique parce qu'elle a été mise sous cloche par le projet d'aéroport. Enfin, c'est plutôt une nature qui n'a pas été détruite et qu'on ne peut reconstruire nulle part ailleurs. Alors déjà, une question très simple, combien de temps il faut pour faire un arbre centenaire sur un talus ? Voilà.
Dominique Frénaud, vous qui êtes agriculteur ici, c'est une terre pauvre, c'est compliqué d'y vivre, d'y travailler. Votre famille qui est depuis quelques générations, par exemple ?
Cinq générations ici. Justement, ma famille a fait partie des premiers agriculteurs qui sont venus ici pour défricher. C'est-à-dire qu'ici, on avait une terre de lande, donc c'était... Des ajoncs et tout ça, et il fallait absolument défricher pour pouvoir cultiver, non pas cultiver, mais élever. En fait, c'était des éleveurs. Ma famille était des éleveurs de vaches.
Donc c'est une terre qui se prête bien à l'élevage. Vous faites aussi quand même quelques cultures.
Alors moi, je suis pas directement concerné.
Non, quand je dis vous, c'est sur la zone.
Ici, sur la zone, c'est mon cousin qui a repris l'exploitation familiale, et c'est lui qui ici continue l'agriculture que lui il a appris de ses parents et continue de faire vivre ce bocage. Il a éliminé quelques haies qui étaient pour faire passer un peu les engins. Mais on a ici des parcelles et un morcellement qui reste respectueux du bocage et qui, justement, a permis de continuer. Je veux dire que la première espèce en voie de disparition, ici, à Notre-Dame-des-Landes, c'était les agriculteurs. Mmh. Et le peu d'agriculteurs qui sont restés et qui ont continué à vivre comme ça, ont continué à faire vivre le bocage.
Sarah, vous qui êtes éleveuse ici, quelles sont les règles que vous suivez en matière d'élevage? Comment vous vous y prenez?
Alors, nous c'est un peu particulier. Donc là, on est en train de constituer le groupe mouton. On a commencé...
Groupe mouton, c'est-à-dire?
Oui, alors on a un peu une manière de parler particulière ici. Et ça nous paraît normal, mais c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça, avec du recul. Et ben là, on est 6 personnes. On s'est réunis cet été. Depuis cet été, on a décidé du coup de d'agrandir le troupeau. Donc, on a une petite dizaine de brebis et on veut avoir jusqu'à 100-150 brebis. Mm-hmm. Et du coup, notre conduite, elle a vocation à prendre soin des végétations des milieux semi-naturels. Donc, on veut essentiellement pâturer des milieux naturels. On a envie de pâturer des milieux diversifiés, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir pâturer dans les sous-bois, faire du sylvopastoralisme. On veut aller pâturer dans les zones humides parce que c'est assez intéressant en fait en période de fin de printemps été, c'est plus frais, c'est plus vert que d'autres endroits. Et puis des prairies plus classiques, mais clairement on veut développer une conduite de pâturage qui est assez en prise de l'agroécologie et qui permet réellement de valoriser la diversité des milieux qui sont ici, sans considérer que leur hétérogénéité est un problème, au contraire.
Et ça, c'est quelque chose, Jean-Marie, pour le naturaliste que vous êtes, qui permet donc de préserver ce lieu.
Oui, du coup, là, on a un lieu vraiment déjà assez exceptionnel par la nature de la campagne naturelle qui est là. Et qui est exceptionnel aussi par le fait qu'il y a déjà une dynamique, il y a déjà des personnes qui cultivent, qui prennent soin de ce lieu. Et donc c'est pas le genre de réserve naturelle où on dit allez hop, on va mettre ça sous cloche ou bien on va écrire un règlement que les gens vont suivre ou pas, ou qu'ils vont faire mine de suivre. C'est des gens qui sont venus ici de partout pour protéger la nature et qui ont vraiment construit une vie qui fonctionne, quoi. Avec la nature.
Justement, des gens qui sont venus de partout, ça veut dire donc aujourd'hui il y a environ 200 personnes sur ce lieu, Victor ?
Oui, c'est à peu près le chiffre qu'on donne, bien qu'il ne veuille pas dire grand-chose, étant donné que, comme on l'a dit précédemment, la ZAD est traversée par tout un tas d'habitants.
Les gens qui veulent venir, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des gens qui viennent chaque mois pour grossir le nombre des habitants ? Est-ce que là aussi il y a des décisions collectives pour savoir qui s'installe, où on s'installe ?
Ben oui, comme il n'y a pas de plan d'urbanisme, évidemment, la moindre des politesses, par exemple, quand on souhaite s'installer quelque chose, quelque part, c'est de demander aux voisins de l'endroit, de faire ça en bonne intelligence avec eux. Et il y a une forme de, comment dire, de processus collectif qui se met en place pour déterminer qui peut habiter où, quoi. Enfin, logiquement, en bonne intelligence, quoi.
Sarah?
Et ça se construit un peu assez progressivement là depuis cet été. On a créé l'assemblée des usages qui a vocation à prendre en charge l'ensemble des problématiques de l'avenir de la zone. Et notamment dans cette assemblée des usages, on a créé une commission qui est la commission Bienvenue, qui a vraiment vocation à accompagner les gens qui ont envie de s'installer sur zone, à créer des nouvelles activités, etc. Et qui est une commission qui réunit des personnes des différentes composantes du mouvement et qui a envie de réfléchir sur le long terme, sur comment est-ce qu'on habite la zone, quoi.
Victor, donc une commission avec une sorte de période probatoire, comment ça se passe ?
Non, c'est pas aussi formalisé que ça, quoi. C'est effectivement, il y a un temps d'adaptation pour s'installer ici, voir comment ça se passe, etc. Mais c'est, on peut pas dire que ça soit véritablement formel, quoi. C'est
Dominique Frénaud.
Oui, ben j'en fais partie justement de cette commission Bienvenue Accueil. C'est-à-dire que bien, il y a plein de gens qui arrivent sur site et qui ne connaissent pas non plus le fonctionnement de la ZAD. Donc je pense que dans un premier temps, c'est aussi de voyager à travers les lieux et de voir, d'appréhender ce qui se passe déjà, de voir si on a des affinités par rapport à un lieu, par rapport à une justement ce qu'on veut y faire, une culture, un élevage ou autre chose. Hein. Et du coup, avant de s'installer, vraiment d'appréhender, de bien prendre en conscience de ce qui se passe ici à Notre-Dame-des-Landes, c'est assez particulier quand même.
La décision finale pour la construction de l'aéroport serait donc imminente, Dominique Frénaud. Aujourd'hui, comment voyez-vous les choses ? Est-ce que vous pensez, par exemple, que cet aéroport va être construit ailleurs, qu'on va agrandir la piste de celui de Nantes ? Quel est votre regard ?
Moi, mon regard de ce côté-là, de toute façon, il y a déjà un aéroport. On peut aussi se poser d'autres questions. Hein. Est-ce qu'on doit développer à ce point-là le transport aérien et ça fait partie des questions.
Mais en termes de probabilité, d'après vous, qu'est-ce que le gouvernement, puisque Édouard Philippe était là samedi, est-ce que, d'après vous, le gouvernement va choisir l'abandon du projet, ce qui semble aujourd'hui faire partie des scénarios présentés comme étant les plus plausibles?
Pour nous, il n'y a pas d'autre scénario. C'est-à-dire que pour nous, ce projet d'aéroport n'existe plus. Ici, on est dans la construction de l'avenir. Pour nous, on n'a pas envie que ce projet continue d'exister au-dessus de nos têtes. Ça fait déjà trop de temps. Et on sait qu'on peut faire autrement. Ben voilà, pour nous, la solution, elle est toute trouvée. Maintenant, c'est une décision qui va être... qui va tomber, voilà, parce que notre président a décidé qu'il allait choisir lui-même. Bon... On espère, il y a à peu près 95% de chances qu'il choisit voilà cette hypothèse. On reste, parce qu'on a eu, tellement de surprises sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes, qui aurait dû être abandonné depuis de nombreuses années, qu'on reste vraiment aussi sur la défensive, parce que on peut être surpris d'une réponse. Mais on se construit dans un avenir sans aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Victor, est-ce qu'il veut dire qu'il pourrait y avoir un scénario comme au Larzac, où finalement il y aurait donc ce qu'on appelle des baux amphithéotiques, autrement dit une forme de location accordée aux personnes qui habitent ici, par exemple?
Ben, ça sera aux assemblées de lutte du mouvement de le décider, à l'assemblée des usages aussi, et à l'État, en négociation. Je crois que la force de ce mouvement, c'est d'avoir à la fois pas fait des plans sur la comète, de ne jamais faire de plans sur la comète, et à la fois d'avoir un coup d'avance. Et le coup d'avance aujourd'hui, c'est la mobilisation qu'on appelle pour le 10 février.
Pourquoi ?
Qui est une mobilisation qui peut avoir deux volets. Dans un cas, si le projet d'aéroport est maintenu, ça sera un jour de colère avec une mobilisation de dégoût et de rage de la part des opposants. Si le projet d'aéroport est abandonné, à ce moment-là, ça sera un jour de fête et un jour pour construire l'avenir de la ZAD et enraciner la résistance sur ce territoire.
Sarah, un mot justement sur cette mobilisation, sur la manière dont vous voyez l'avenir.
Eh ben, je pense que le 10 février, on a rendez-vous avec l'histoire. Clairement, on a un moment extrêmement important qui abandonne l'aéroport ou pas, et ça va être essentiel qu'on soit nombreux à cette mobilisation. Déjà parce que c'est rare de gagner, et que gagner une lutte comme celle de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est nourrir énormément d'espoir pour l'avenir, pour d'autres possibles, quoi. Et je pense qu'on a tout intérêt en fait à se mobiliser quoi qu'il arrive, et vraiment on invite tout le monde à venir et à ne pas considérer que si on a gagné c'est pas la peine de venir. On organise tout pour que ce soit un moment hyper joyeux, hyper festif de retrouvailles ensemble, et ce sera pas le dernier.